France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
S'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est le coup de Trafalgar. 4 ans, dont de ferme, 5 ans d'inéligibilité, la vie politique de Marine Le Pen ne sera plus jamais la même. La question est de savoir si ce coup de Trafalgar l'entrave, elle, mais ouvre à l'inverse un boulevard au Rassemblement National. Si peu importe qu'elle représente ce parti, il saura en tirer tous les bénéfices, ou si la disparition électorale de celle qui incarne le Rassemblement National par son nom sème d'embûches la route du Rassemblement vers les présidentielles. Peut-il y avoir un ARN sans Marine Le Pen? Peut-il y avoir encore une Marine Le Pen sans candidature à la présidentielle? Dans ce coup de Trafalgar, il y a aussi la démocratie et comment elle est perçue par nous tous qui votons. Est-ce que cette affaire révèle la solidité de nos institutions? Il y a eu un procès, des malversations prouvées, une peine adéquate pour ce genre de délit, ou sommes-nous dans ce qu'on appelle depuis un moment maintenant cette fameuse république des juges? Et quand on utilise cette expression, c'est pour dire que les juges entravent à la fois la démocratie et l'accession au pouvoir de ceux que la souveraineté populaire semble vouloir porter au pouvoir, ou en tout cas ceux qui ont une chance d'y accéder. Nous ne sommes pas aux États-Unis, mais vous avez vu comme moi les similitudes. Ainsi d'ailleurs que dans les discours de certains politiques, le droit a trop de verrous qui empêche l'opinion d'obtenir ce pour quoi elle a voté. La réponse américaine, c'est passons-nous du droit. Est-ce que nous sommes aussi dans cet état d'esprit quand seule la voix du peuple compte, point d'interrogation multiple. Le risque, c'est qu'il reste dans l'opinion une désillusion du droit, une désillusion du vote. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait surtout de nous dans un avenir proche? C'est toutes ces questions qui sont soulevées par la condamnation de Marine Le Pen. Un coup de Trafalgar, par définition, c'est un événement ayant de grandes répercussions, mais qui reste longtemps à l'esprit. Eh bien, nous y sommes probablement. Vous allez en tout cas nous le dire. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Antoine, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Antoine.
Merci. Bonsoir, vous m'entendez?
Ouais, très très bien. On vous écoute.
Parfait. Bonsoir, je vous appelle de la région nantaise. Écoutez, je m'étonne de l'indignation des partis politiques et des politiques concernant le jugement qui tombait à l'encontre de Madame Le Pen. J'ai rien contre Madame Le Pen en tant que personne, bien que je ne partage pas forcément ni ses idées ni celles de son parti. Je pense que la justice est passée, que les juges ont jugé sur des faits, des preuves, des faisceaux d'indices, comme on dit, plus une réflexion qu'une question. Je suis chef d'entreprise d'une PME dans le secteur du web. Très simplement, quand on tape dans la caisse, permettez-moi l'expression familière, en tant que chef d'entreprise, on est inculpé pour faute de gestion et ça va très simplement jusqu'à interdit de gérer une boîte, interdiction de gestion d'une entreprise. Donc quoi qu'on en pense, juste ou injuste, je trouve que le jugement est juste, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a plus que des faisceaux d'indices, il y a des preuves. Voilà, c'était ma réflexion.
Eh ben merci pour votre réflexion, Antoine, et merci d'entamer ce téléphone sonne pour discuter ensemble autour de cette table jusqu'à 20h. Il y a Vincent Jarousseau, bonsoir.
Bonsoir.
Documentariste, vous avez écrit « Dans les âmes et les urnes, 10 ans à la rencontre des électeurs RN », c'est aux éditions, aux arènes. Il y a Élodie Forêt qui est là également, bonsoir Élodie.
Bonsoir.
Vous suivez le RN au service politique de France Inter, Élodie, puis il y a Maxence Lambrec aussi, le chef du service
politique.
Bonsoir
Fabienne.
Bonsoir. Notre ami Antoine, il parle des réactions, et notamment les réactions politiques à cette condamnation. On en a entendu un certain nombre, j'ai commencé avec vous, Maxence Lambrec. On a entendu le trouble de François Bayrou notamment, on a entendu ce que disait Laurent Wauquiez, qui lui aussi semble gêné aux entournures, on va le dire comme ça, c'est le cas aussi du Rassemblement National. À votre avis, pourquoi? Est-ce que la crainte, c'est que tout cela ne se retourne contre eux, finalement?
Oui, c'est, je pense, l'idée qu'il faut envoyer un signal à l'électorat populaire du RN, à l'électorat du RN tout court en vue de 2027. Et le trouble de François Bayrou est particulièrement marquant. Hein, laisser apparaître ce sentiment quelques heures après ce jugement, c'est finalement commenter une décision de justice. C'est le Premier ministre lui-même qui va au-delà de son rôle. Hein. Il aurait pu évidemment se taire et la consigne aurait pu être passée, mais non.
Alors il l'avait dit avant. attend par ailleurs, hein, attente du jugement.
Sauf que là, le jour J, dire « je suis troublé parce qu'elle est tout de suite inéligible de manière immédiate », c'est se permettre, on se trumpise, on se permet de commenter parce qu'on sent en effet que l'opinion va dans ce sens, qu'il faut plutôt accompagner ce mouvement d'opinion. Il n'est pas le seul, hein, très proche d'Edouard Philippe, Christophe Béchu parle aussi de la remise en cause de cette loi qui permet l'exécution provisoire. Un membre du gouvernement ce midi m'en parlait aussi. Enfin, donc dans le bloc central, il y a cette idée de coller à l'opinion, ça va un peu trop loin, la justice va trop loin, et on se permet de le dire quasiment devant les micros et les caméras.
Parce que Vincent Jarousseau, y compris aux yeux des électeurs RN, Marine Le Pen, c'est vraiment le piédestal, ou est-ce que vous avez le sentiment, vous, de toute façon, que on verra bien où on va dans les semaines qui viennent, mais que le RN peut de toute façon exister sans elle. Est-ce qu'il y aura besoin d'un sas, en fait? Est-ce qu'on en est là?
Moi, je me garderais bien, à cette étape, de porter un jugement sur ce que pensent les électeurs du Rassemblement National de ce jugement. Je serais beaucoup plus prudent que les politiques...
Pour ça, je ne vous pose pas la question comme ça, parce qu'effectivement,
à cette étape, parce
rien,
que, en l'occurrence, l'électorat populaire du Rassemblement National peut aussi être extrêmement sensible aux questions de détournement de fonds publics. Hein, on parle quand même globalement de population. Moi, les gens que j'ai vus, ce sont des gens qui ont globalement du mal à boucler les fins de mois. Et une affaire de ce type n'est pas forcément, je pense, à l'avantage, en l'occurrence, des politiques en général et du Rassemblement National en particulier. On peut dire, en effet, que le Rassemblement National, d'une certaine manière, se normalise. Voilà, on avait ce vieux slogan sous l'ère de Jean-Marie Le Pen, tête haute, main propre, et quelque part, beaucoup d'électeurs pouvaient nous dire un peu, oui, les politiques, c'est tous les mêmes, c'est tous des pourris. Et quelque part, on l'entend aussi parfois chez des électeurs du Rassemblement National qui ne sont pas se font pas forcément d'illusions quant à la probité de ce parti. Mais voilà, ils envoient aussi un message. Bon, maintenant, il y a quand même une base, en effet, fanatisée, hein, de Marine Le Pen en particulier, notamment dans l'électorat féminin. Et c'est vrai que on va, dans un premier temps, je pense, avoir une réaction d'incompréhension par rapport à la décision de justice.
Et c'est ce qu'on a du mal à évaluer, le dit Forêt, le Rassemblement National, avec une Marine Le Pen qui forcément est obligée d'être un peu sur le siège arrière en vue des élections à venir. Est-ce que, en l'état du Rassemblement National aujourd'hui, c'est le même Rassemblement National, quoi qu'il arrive, de toute façon? Ou est-ce qu'on aura besoin, je parlais d'un sas tout à l'heure, pour comprendre que certains rôles peuvent être inversés, devront être inversés?
Alors, je pense qu'il va y avoir plusieurs périodes. D'abord, il va y avoir, et on le sent déjà aujourd'hui, une sorte de resserrement de tous les cadres, de tous les élus qui vont un peu d'une même voix, comme ça, porter un même message que la démocratie a été exécutée. C'est le premier message qu'a posté Jordan Bardella tout à l'heure. Donc, ils vont parler d'une même voix. Je pense que personne dans les premiers temps ne va contester ce que Marine Le Pen avait mis en place. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a mis en place, en plaçant Jordan Bardella président du parti, elle a mis en place un dauphin, un héritier, quelqu'un qui allait lui succéder. Elle l'a même appelé comme ça à plusieurs reprises, hein, son successeur, que ça soit hors micro ou au micro. Donc, je pense qu'au début, personne ne va contester ça, parce que c'est à la fois parce qu'ils ressentent, eux, une telle injustice que, évidemment, le premier réflexe, c'est de rester vraiment très groupé. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là la question dans quelques mois, une fois que tout ça va s'atténuer. Parce que Jordan Bardella, ce n'est pas Marine Le Pen. Jordan Bardella, il n'a pas les appuis qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que Marine Le Pen, aujourd'hui, tout le cercle décisionnel du RN lui est voué. Corps et âme, il l'appelle la championne, la patronne. Vous voyez, il y a vraiment un phénomène de clan autour de Marine Le Pen. Pour l'instant, Jordan Bardella, lui, il a un tout petit noyau autour de lui, un tout petit cabinet. Et au-delà de ça, il n'y a pas de bardellistes, quoi. Il y a des marinistes, mais des fidèles de Bardella aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Donc il va falloir vraiment qu'il arrive à transformer ça et à se créer lui aussi à son tour une vraie écurie, un vrai clan de fidèles.
Hervé nous attend au standard. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je suis un électeur de gauche, mais j'approuve absolument la décision du tribunal. Et si ça arrivait à une personnalité de gauche, j'approuverais aussi, parce que Ça fait tellement longtemps qu'on se méfie des politiques, qu'il y a un désamour pour les politiciens en général, que je pense que faire un petit peu de ménage est plus que le bienvenu. Quoi.
Merci beaucoup Hervé pour votre remarque, Vincent Jarousseau. Le risque au milieu de ces électeurs, pas tant effectivement du noyau dur dont vous parliez, mais peut-être de ceux qui basculent d'une élection à l'autre, qui reviennent et puis qui repartent, c'est quoi? C'est la désillusion du vote, donc l'abstention, ou au contraire la colère, hein, donc le retour dans le giron du Rassemblement National, la désillusion de ce qu'est l'état de droit
Il y a plusieurs temps dans cet état, enfin dans cette situation, parce que on peut très bien imaginer avoir une élection partielle législative à la rentrée où Marine Le Pen ne serait dans l'impossibilité de se présenter, et puis une élection présidentielle, mais dans 2 ans. Et mine de rien, 2 ans, c'est quand même long comme période. On a une réaction principalement émotionnelle aujourd'hui à la politique. Moi, je le vois chez les électeurs. Aujourd'hui, c'est pas tant les idéologies qui structurent le vote, mais plutôt une dimension, sociologique. Ouais. Et véritablement, ce que raconte aussi un petit peu, à mon sens, les réactions qui peuvent se dessiner autour de cette décision, c'est d'une certaine manière, et on voit bien les réactions des cadres du Rassemblement National aujourd'hui, c'est de jouer le peuple contre les élites, et quelque part le camp du savoir légitime qui est représenté par les politiques traditionnelles, les juges, les journalistes, et tous les sachants d'une certaine manière.
Sachant qu'il y a un contexte, hein, par ailleurs, un contexte américain, et au-delà de nos frontières.
Et un contexte international.
Un contexte international.
Les communiqués aujourd'hui de Musk, de Poutine, où d'ailleurs il y a une certaine similitude avec certaines réactions chez nous. C'est assez surprenant de voir finalement ces dirigeants venir à la rescousse de la présidente du Rassemblement National. Je vous dis, moi, à cette étape, je ne sais pas. Je vais maintenir quand même un certain doute. En revanche, la suite pour le RN, elle n'est pas forcément toute tracée. Hein. On parle bien d'une prochaine élection présidentielle qui se jouerait sans une Le Pen, ce serait une première depuis 1981, donc à l'échelle de notre 5e République, c'est quand même pas rien. Et derrière, Jordan Bardella, pour l'instant, est désigné comme l'héritier d'une certaine manière, mais je suis pas sûr qu'il fasse l'unanimité au sein de l'extrême droite qui va au-delà aujourd'hui du Rassemblement National.
Et ne mettons pas effectivement la charrue avant les bœufs, Maxence Lambrecq, mais disons qu'on attend, on voit ce qui se passe dans quelques mois, mais est-ce qu'on peut assister soit un Jordan Bardella qui prend son indépendance vis-à-vis de Marine Le Pen, soit qui se fait écraser par d'autres, et donc une guerre des chefs à l'intérieur du Rassemblement National, désormais que le nom Le Pen, j'allais dire, a disparu. Il reste Marion Maréchal aussi, qui s'appelle Le Pen de la même manière, hein, mais néanmoins, est-ce qu'on peut s'acheminer dans cette direction-là? C'est-à-dire, au fond, ce à quoi on assiste depuis ce matin serait aussi une forme d'émancipation du Rassemblement National.
Il ne s'est jamais éloigné de Marine Le Pen. Il a toujours répété mot à mot ce que...
Jordan Bardella, vous voulez dire?
Ah, Jordan Bardella, oui, pardon.
Oui, en l'état.
Oui, mais en l'état.
En l'état, bon soldat.
Pour l'instant, je ne vois pas dans son logiciel ce qui lui permettrait, parce que même sur l'Ukraine, quand il a voulu faire un tout petit pas de côté dans une tribune à l'opinion, un petit tacle à Vladimir Poutine, il s'est tout de suite ravisé parce que ça ne lui a pas plu. Il était en Israël, vous y étiez, Elodie, il reprend exactement les termes de Marine Le Pen pour qualifier la Shoah, le summum de la barbarie, mot pour mot. Il n'a jamais été là-dedans, il a toujours été le porte-parole de Marine Le Pen, c'est d'ailleurs son premier poste au FN, au RN, et on imagine très bien, en tout cas, qu'à 29 ans, il ait des adversaires.
Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'existe pas sans elle, en effet. Si elle est assise sur le siège arrière, il peut se laisser manger par les autres, c'est aussi ça que vous dites, ou pas?
En tout cas, il n'a pas du tout à 29 ans, la stature qu'elle a, l'expérience qu'elle a, la carrure et même l'instinct, je veux dire. Parfois, il faut savoir réagir. Lui n'a pas le logiciel qu'elle a. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'elle est là-dedans. Elle a eu évidemment son père comme référent toute sa jeunesse et toute sa formation politique. Donc non, c'est vraiment pas le même calibre. Il a encore jamais été vraiment exposé au tout premier plan. Et il est susceptible d'avoir des adversaires dans le camp, oui.
Alors avec un parti, effectivement, qui jusque-là rassemblait, jusqu'aux dernières élections, 11 millions de voix, ça fait du monde. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Allez-y Bernard.
Je tiens à préciser que je ne suis pas quelqu'un qui vote pour le Front National.
Ok.
Mais il me semble que le cœur du problème est peut-on considérer Marine Le Pen, qui recueille des millions de voix, peut-on la considérer comme vous et moi ? Peut-on la juger comme vous et moi ? Cela, j'avoue que je me pose des questions, et cela me dérange. Peut-on... Il y a des millions de gens qui ne vont pas pouvoir voter pour elle, et j'avoue que je suis troublé.
Décidément, il y en a des gens qui sont... Le mot trouble est le bon. Merci Bernard pour votre intervention. Je suis troublé, nous dit Bernard, Vincent Jarousseau. Et alors, ce qui est très compliqué, c'est que Bernard n'est pas en train de nous dire ces gens-là sont au-dessus des lois, tant pis. Il nous dit juste, c'est elle qui représente 11 millions de voix. Du coup, c'est quand même très très rude. Comment on l'a fait, cette équation-là ?
Non mais c'est tout à fait normal. Dans les institutions de la Ve République, où tout est structuré autour de l'élection présidentielle et d'un candidat, d'une personne, en l'occurrence, et de surcroît dans un parti comme le Rassemblement National, qui fonctionne autour d'un chef, et ça a toujours été le cas, il est évident qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est une forme d'effondrement, finalement, d'une certaine manière, de sa tête, qui est dans
la
capacité
de se présenter. Oui, par la même de la vie démocratique, etc.
Enfin, ça ne veut pas dire, quand même, sur le papier, que le Rassemblement National n'est pas en capacité à présenter un candidat à cette élection et à poursuivre, je dirais, normalement, sa vie démocratique. Personne n'est irremplaçable. C'est la question qui se pose, et je pense que tous les politiques devraient se la poser, les institutions, enfin, c'est quelque part aussi le fonctionnement de nos institutions. Est-ce que, oui ou non, les hommes et les femmes providentielles, ça existe dans la gestion des affaires courantes et dans les gestions d'un pays? Moi, à titre personnel, je ne pense pas.
Ouais, et en même temps, dans l'histoire, je parle sous votre contrôle, Élodie et Maxence, mais on dit toujours qu'on vote évidemment pour des idées, c'est vrai, mais de fait, on vote pour des personnes, on vote pour des personnalités. Enfin,
aussi, et dans le cas de Marine Le Pen, c'est extrêmement vrai. Moi, la campagne de 2022, toutes ces scènes de liesse autour d'elle, de ces femmes, vous parlez de cette base féminine assez fanatisée. Moi, j'ai des images dans le nord de la France avec ces femmes qui l'adorent parce qu'elles représentent à la fois cette mère qui a élevé seule ses enfants, qui a qui a vécu des difficultés auxquelles elle se compare, donc elle incarne particulièrement ça. Mais ce que dit Bernard, en fait, moi juste j'ai envie de répondre parce que ça pose la question de est-ce que Marine Le Pen est une justiciable comme les autres,
et qu'un politique est injusticiable comme les autres, exercice par ailleurs.
Et le tribunal a longuement justifié ça en disant qu'ils avaient pris en compte tout ce que ça avait finalement comme conséquence de faire ce choix-là, mais qu'on ne pouvait pas avoir une rupture d'égalité, et puis que ça posait la question, si elle avait pu aller jusqu'à la présidentielle et si elle avait été élue avec comme ça une condamnation en première instance à de l'inéligibilité, et si elle était coupable de ce qu'on lui reprochait et avec un appel plus tard qui l'aurait confirmé, ça pose quand même une question de quelqu'un qui pourrait être présidente avec cette faute-là sur le dos et avec cette condamnation sur le dos.
Qu'est-ce qui penche entre le droit et la souveraineté populaire ? La réponse devrait aller de soi, mais nous sommes aujourd'hui dans une époque, encore une fois, nous, les Américains, une partie de l'Europe, où, qu'on le veuille ou non, Vincent Jarousseau, cette question, elle se pose aujourd'hui. C'est peut-être pas forcément une bonne question, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, cette question se pose.
Non, mais c'est évident que c'est une question très très présente. Pour revenir sur l'électorat de Marine Le Pen, c'est vrai qu'on a une fan. Enfin, je parle d'une base fanatisée, mais c'est pas péjoratif de mon point de vue. Mais c'est vrai qu'il y a presque une madone pour beaucoup d'électeurs et d'électrices.
Et ça, Bardella, non, parce qu'on a bien vu pendant la dernière campagne.
Et Bardella, c'est très
TikTok,
très différent.
Moi, des gens plus jeunes.
Je voudrais confirmer ce qui a été dit avant, mais c'est vrai que il y a l'âge de Bardella, ça il n'y peut rien, c'est comme ça. Mais je pense que, pour revenir sur Marine Le Pen et revenir sur cette élection présidentielle de 2022, je confirme les scènes que vous racontez, mais au-delà de ça, imaginez la situation de 2022 où vous aviez la candidature d'Éric Zemmour, et quand il était à 15% des sondages, comment un Jordan Bardella dans cette situation réagit ? Comment finalement il avance stratégiquement ? Marine Le Pen, elle a eu une stratégie, c'est quelqu'un qui a quand même un flair politique, qu'on l'aime ou non, qu'on l'apprécie ou qu'on soit d'accord ou non avec elle, c'est quelqu'un qui a vraiment un flair politique assez impressionnant. Et c'est, je crois, pas du tout le cas de Jordan Bardella.
Marc est avec nous. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Marc.
Merci beaucoup de prendre ma question. Je voulais réagir par rapport au trouble de François Bayrou. Je trouve ça amusant qu'il ait utilisé ce mot-là. Alors, peut-être je vous propose une explication, en tout cas, pour comprendre ce trouble. Il se trouve que lui-même a miraculeusement échappé, il y a quelque temps, à une peine qui aurait pu être exactement celle que vient de récupérer Marine Le Pen, et qu'il va bientôt être rejugé pour les mêmes faits. C'est-à-dire, pour rappeler les faits quand même, parce que là on parle beaucoup des conséquences pour Madame Le Pen, mais on parle quand même d'escroquerie en bande organisée, de 5 millions d'euros d'argent public qui ont été détournés, donc pour François Bayrou et le Modem c'est un petit peu moins, mais donc je comprends qu'il soit troublé, parce qu'il va lui arriver la même chose. Si le monde est bien fait, il faudrait qu'il lui arrive la même chose. Donc le minimum qu'il puisse faire, ce serait de se taire.
Alors, je suis horrifiée, dit Fabienne, des réactions politiques de tous bords quant au manque de démocratie. Jean-Pierre, qui nous dit là, le Premier ministre François Bayrou a été relaxé pour des faits qui étaient semblables. Je voudrais qu'on remette l'église au centre du village, Maxence Lambrecq, redire pourquoi, enfin, ce qui pend, ce qui est, oui, ce qui est au-dessus de la tête, voilà, c'est le mot de François Bayrou ou pas.
Le parquet a fait appel de cette décision en première instance, donc il y aura un deuxième procès qui n'a pas encore été audiencé, c'est-à-dire que la date n'a pas encore été fixée, mais il y aura un deuxième procès. On parle aussi de détournement de fonds publics avec des assistants parlementaires qui étaient au service du Modem, mais exclusivement du Modem et non du Parlement européen. Plusieurs cadres ont déjà été condamnés du Modem, sauf François Bayrou lui-même. Et Jean-Luc Mélenchon est visé par une plainte, enfin par une soupçon similaire. Une enquête, en tout cas, a été ouverte à son encontre aussi pour deux assistants parlementaires qu'il n'aurait pas embauchés pour son statut de député européen, mais pour son parti.
Juste une petite précision, dans le cas du Modem, quand même, parce que c'est important, les sommes étaient bien moindres que ce qu'on parle pour le RN. C'est-à-dire que c'est pas du tout en fait l'idée d'un système organisé comme on a pu le comprendre pendant le procès des assistants
FN. C'est bien de ça, effectivement. Non, enfin,
c'est pour ça que l'une des choses, c'est parce qu'elle est à la chef, elle est identifiée coupable.
Et que les juges ont considéré qu'il y avait un système. C'est même d'ailleurs pour ça qu'ils ont considéré qu'il y avait un risque de récidive, etc. On est en train de parler de l'après au Rassemblement National dans le téléphone sonne ce soir avec Vincent Jarousseau, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Dans les âmes et les urnes, 10 ans à la rencontre des électeurs RN aux éditions Les Arènes, avec Élodie Forêt et Maxence Lambrecq du service politique de France Inter, et avec Michel qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Avant de poser ma question, qui sera assez brève, une petite réflexion. Ce matin, quand j'ai entendu sur votre radio l'annonce du tribunal, je me suis dit, ah bon sang, dans notre pays de France, les malfaiteurs sont poursuivis et punis. Tiens, bon sang. Excusez-moi pour cette boutade, mais au-delà de ça, je suis assez sidéré qu'un certain nombre de responsables politiques, y compris gouvernementaux, y compris François Bayrou, remettent en cause la décision du tribunal. Je vous le dis franchement, je suis assez inquiet pour les institutions dans notre pays où vraiment la paix civile est à préserver, de ce qui peut se passer. Enfin bref, j'en viens à ma question précise.
Oui, s'il vous plaît, allez-y.
J'ai écouté dans le journal à 13h que le président de la République pourrait amnistier Madame Le Pen, premier point. Et deuxième point, j'ai entendu un peu plus tard sur votre radio qu'il y a des députés qui réfléchissaient à très vite changer la loi qui a conduit Madame Le Pen dans cette situation. C'est un peu deux choses un peu voisines, il me semble, dans mon esprit. Je veux dire, la loi est dure, mais c'est la loi pour tout le monde, hein, pour tout le monde, y compris pour les malfaiteurs en col blanc ou parlementaires ou tout ce qu'on veut.
Dur Alex, c'est de l'ex. Merci beaucoup, Michel. Il y a plusieurs choses. Effectivement, la question sur l'amnistie ou la grâce de Marine Le Pen, Nicolas la pose aussi pour éviter une crise politique. Est-ce que le président de la République peut gracier Marine Le Pen et les autres, Maxence,
choses auxquelles... C'est vrai que ça a circulé dans les heures après le jugement. Il y avait une espèce de sidération dans le bloc central, dans ceux qui entourent plus ou moins le président de la République, sur le thème il faut trouver une solution, il faut trouver une issue, Marine Le Pen se doit d'être candidate et donc une grâce présidentielle. Alors la grâce présidentielle, c'est un conseiller de l'ombre qui en parle comme ça, et je pense
qu'il aurait fallu au bout du bout de la procédure.
Il a très vite regretté sa phrase, et oui, il faut une condamnation définitive, ce qui n'est pas le cas, et ce qui ne sera pas le cas dans les années à venir, puisque Marine Le Pen engagera tous les recours possibles. Et quant à la loi qui réviserait et qui permettrait de revenir sur cette exécution provisoire, qui ne permettrait plus et qui serait rétroactive...
Donc changer le mode de procédure pénale, c'est ça que ça veut dire, en fait.
C'est changer le code de procédure pénale, c'est possible en soi, mais il faut trouver une majorité à l'Assemblée pour amnistier Marine Le Pen, hein. C'est ni plus ni moins que ça, ce qui paraît aujourd'hui assez improbable. Mais c'est vrai que c'est apparu assez vite. Et
on réformer la loi Sapin, par exemple, et lui donner un effet rétroactif
Oui, c'est du même acabit. C'est possible, mais on n'imagine pas Gabriel Attal voler au secours de Marine Le Pen, on imagine difficilement même François Bayrou et son groupe MoDem. Enfin,
La France Insoumise, quoi.
Et la France Insoumise,
qui aujourd'hui dit que ce n'est pas effectivement à la justice d'empêcher un représentant d'un parti d'opposition d'être candidat à la présidentielle, mais est-ce qu'ils iraient jusqu'à voter comme ça et pour amnistier Marine Le Pen? Ça paraît quand même assez étonnant.
Moi, le sujet me paraît particulièrement inflammable pour l'ensemble de la classe politique, puisque en arriver à une forme d'auto-amnistie sur des affaires de détournement de fonds publics, c'est quand même pas neutre. Voilà, moi je pense qu'on va pas assister à un feuilleton judiciaire sur cette affaire.
Il y a une part d'improvisation aussi dans la réaction.
Et d'amateurisme.
Réaction
qu'on n'a pas anticipée au Rassemblement National.
Mais tout comme un peu partout, à tous les échelons de la politique, ce matin, on était tous un peu... on a senti beaucoup de surprises.
Je reviens au trouble de François Bayrou et à certains de nos auditeurs qui sont troublés par le trouble. Je me demandais, Maxence Lambrecq, et notamment en les écoutant, si le trouble de François Bayrou, qu'il avait encore une fois déjà exprimé, c'est effectivement lié au fait qu'il est dans une affaire qui n'est pas aussi grosse mais qui est similaire, ou si, on la connaît la situation de la politique française aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir subitement le vote d'une motion avec les voix du Rassemblement National, donc on essaye d'aplanir les angles le plus
et de calmer,
le plus possible,
et
de calmer tout le monde.
Exactement. Évidemment, François Bayrou veut aller jusqu'au bout, si possible jusqu'en 2027. Il cherche à tout prix à éviter une nouvelle censure et donc la fin de son passage à Matignon. Et donc, oui, c'est vrai que le gouvernement, aujourd'hui, se demande si cette décision ne va pas susciter une instabilité politique dans un moment où ils se disent on ne peut pas lâcher les manettes maintenant, on est en train de préparer un budget 2026 hyper dur dans un contexte international très risqué, il faut absolument qu'on reste là, et donc si par quelques mots...
Mais est-ce qu'il aurait intérêt, Marine Le Pen, là, imaginez, on va faire de la politique fiction, boum, censure, tout ça, paf, dissolution à nouveau,
dissolution.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Paf, dissolution.
Oui, non, paf, on est d'accord. D'accord, mais imaginons une politique fiction de ce genre-là, à la fin de cette. Au début du mois de juillet.
Oui.
Est-ce que cette situation-là la renforce, selon vous, avec des électeurs qui diront vous allez voir ce que vous allez voir? Donc il y a un intérêt de recréer une espèce de confusion à l'intérieur de l'Assemblée, etc., de recommencer à faire du bruit, donc de sortir de la politique de la cravate, pour dire les choses. Est-ce qu'il y a plutôt intérêt à ça? Ou est-ce qu'il faut d'abord se ranger, s'assurer que tout le monde est bien dans les bonnes cases, et ensuite peut-être
Emmanuel Macron ne dissoudra pas, et à mes yeux, ça n'arrivera pas ni en juillet, ni en septembre, et c'est pas du tout dans son intérêt. Petit 2, je pense que le socle du RN ne bouge pas et ne bougera pas, et que ça n'a aucun impact, et que personne ne va se dire convaincu par Marine Le Pen parce qu'elle a été condamnée, et il ne va pas y avoir un élan comme ça, elle ne va pas prendre 5 points grâce à une décision de justice. Je veux dire, qui peut aujourd'hui la rejoindre? Ce sont plutôt des retraités, plutôt des PME, plutôt des gens aujourd'hui rangés plutôt à droite. Eux, quand ils entendent la justice remise en cause, je ne suis pas sûr qui se disent « Ah oui, c'est vrai que Trump, c'est super, on va la suivre et on va aller, on va trumpiser la France encore un peu plus. » Et donc, voilà, et petit 3, je l'ai oublié.
Et d'ailleurs, je vais faire un petit 3 juste. D'ailleurs, l'offensive qui est annoncée cet après-midi est assez raisonnable, guillemets. C'est-à-dire Jordan Bardella appelle à une mobilisation pacifique et populaire en signant une pétition.
Absolument.
Et moi, quand je leur ai demandé « Mais attendez, vous parlez de quoi vraiment que de cette pétition ? Vous appelez les gens à descendre dans la rue ?»« Ah non, surtout pas, on veut surtout pas que les gens descendent dans la rue, ça pourrait déborder, nous
bien
on veut
sûr.
Pas ça. »
Bah, textuellement, ça fera venir les Black Blocs, je vous ai entendu dans le journal de 19h, c'est exactement ce qu'on entend. Donc,
mais là, l'objectif pour eux, c'est de gagner du temps, Ils sont de toute façon pas prêts dans la situation actuelle. Et oui, ils avancent vraiment sur la pointe des pieds. Enfin, moi, je trouve que les réactions sont... il y a un peu d'esbrouf et une réaction émotionnelle, évidemment. Et ça, c'est assez logique et je ne m'attendais pas au contraire. Maintenant, je pense que sur le socle, je ne sais pas. Franchement, je reviens toujours sur cette base populaire. Moi, j'ai quand même quelques antennes. Oui, alors évidemment, on aura toujours des électeurs pour considérer que c'est dégueulasse, d'une certaine manière, vis-à-vis de Marine Le Pen, qui, elle, est condamnée. Et part, les délinquants, eux, ne le sont pas, parce qu'on entend aussi ce discours. Mais il y a quand même une partie de l'électorat populaire, je vous dis, qui est très sensible aux questions...
Dans l'argumentaire, il y a toujours... je ne me suis pas enrichi d'un euro.
Oui.
Il y a 4 millions d'euros qui ont circulé et qui ont permis au parti de grandir, mais à aucun moment Marine Le Pen n'est accusée et reconnue coupable d'enrichissement personnel. Et ça, elle continuera de le mettre en avant. Et c'est, je pense, ce que disait Jean-Marie Le Pen, moi, je n'ai pas touché à la caisse. Et ça restera un argument assez fort pour elle, en disant, mais tout ça, c'est un système presque administratif, c'est une condamnation administrative, j'ai juste pas mis les bons chiffres dans la bonne colonne.
Et c'est argent de l'Europe.
Et c'est ce qu'a démonté un peu la juge ce matin en disant, certes, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais ça a donné un grand confort au cadre du parti et des très bons salaires.
On parle de salaires de 10 000 euros quand même.
Des très bons salaires à la secrétaire de Jean-Marie Le Pen, au garde du corps, etc., qui n'auraient peut-être pas eu des salaires équivalents.
Allez, retour au standard où nous attend Charlotte. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Charlotte.
Voilà, donc moi je voulais rappeler quelques éléments. Je suis magistrat, je ne sais pas mon vrai nom. Très concrètement, je voulais juste rappeler que les magistrats, ils raisonnent en droit et uniquement en droit. Que c'est pas eux qui font la loi et qu'on fait que l'appliquer. Donc aujourd'hui, la question de la peine, c'est pas de savoir si les magistrats auraient dû faire ci ou ça, c'est que si la peine, elle est décidée par le législateur, elle est appliquée par le juge. Et la peine d'inéligibilité et l'exécution provisoire, ce sont des peines qui sont prononcées quotidiennement dans tous les tribunaux de France. Pour de très 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 nombreuses personnes.
Et je voudrais renchérir sur ce que vous dites, Charlotte, parce que la Cour d'appel de Paris, par exemple, là, au moment où on se parle, c'est un communiqué qui vient de sortir, dénonce les menaces à l'égard des magistrats dont ils font l'objet en ce moment même, et j'imagine que c'est pas fini, parce que c'est ça l'énorme risque, Maxence Lambrecq, c'est qu'on se retrouve dans cette démocratie-là, celle qui considère que les voix des juges n'ont aucune importance, celle qui considère donc qu'on peut désobéir puisque le jugement d'un juge, c'est pas son travail, mais c'est simplement un acte politique, on peut marcher sur une ligne de crête extrêmement étroite.
Évidemment, et le fait même que le nom de la présidente du tribunal ait été relayé partout, et elle-même est menacée, celle qui a pris cette décision ce matin, est assez terrible, mais la remise en cause du Conseil constitutionnel révèle de la même mécanique. Et finalement, on sent que depuis des années, en fait, les institutions et le Conseil d'État aussi, et on se retrouve avec une même mécanique de remise en cause, et on relativise, et on relativise, et on banalise les attaques. Et le cercle s'élargit, et c'est vrai que c'est ce qu'on constate encore ce soir, c'est que le cercle de la remise en cause à mots couverts, avec des petites tournures, quand même, un ministre disait tout à l'heure, la motivation me paraît fragile. La motivation de ce jugement me paraît fragile. C'est pas rien. Et oui, mais c'est off. Bon, d'accord, c'est off. Mais quand même, ça apparaît dans le débat.
Vincent Jarousseau ?
Non, mais je pense que je voudrais quand même revenir. On a, depuis les élections législatives dernières, mais ça a commencé avant, une espèce de tentation d'une partie de la classe politique d'essayer de coller au basque, d'une certaine manière, de l'électorat, de l'opinion supposée du Rassemblement National. Avec, de mon point de vue, je pense, par rapport à ce que j'ai pu observer, parfois aussi une erreur de jugement sur ce qui est réellement sur cet électorat, à qui on prête beaucoup d'intention, mais qui ne s'avère pas être exactement vrai. C'est vrai sur des questions d'insécurité, d'immigration, où je pense que parfois, on va au-delà de ce que pourrait réclamer cet électorat, et d'une certaine manière, sur ces affaires, on retrouve un peu la même chose. Et voilà, il y a eu un accord d'une certaine manière tacite avec le gouvernement, puis qui n'est pas vraiment directement issu des urnes. On peut le déplorer, on peut le condamner, mais le fait est que on a un espèce de bloc central qui gouverne d'une certaine manière avec l'aval indirect d'une certaine manière du groupe du Rassemblement National,
en tout cas qui est sous la menace,
mais d'une certaine manière il y a plutôt eu un appui de ce côté-là, alors qu'on aurait pu constituer une toute autre majorité.
et qui, avec le fameux trouble, d'une certaine façon, alimente cette défiance vis-à-vis des juges et, là, encore une fois, la difficulté, la crainte. Je parle vraiment de la démocratie avec un grand D, c'est vraiment celle-là.
Les juges rappellent, enfin, ces décisions de justice rappellent une chose assez élémentaire que Charlotte décrit là, c'est qu'il n'y a pas de totem d'immunité des élus, quels qu'ils soient, et quel que soit leur poids dans les sondages.
Et elle-même appelait à l'inéligibilité à vie en avril 2013. Mm-hmm. C'était une séquence assez forte où elle disait « Moi, ma veste est immaculée, je n'ai rien à me reprocher, et en revanche, au PS et à l'UMP, il y a une liste de condamnés, et tout cela... Mm-hmm. » pour détournement de fonds publics, elle précisait, devrait être inéligible à vie.
À vie, à vie.
Absolument, on se souvient de cette phrase, elle a beaucoup circulé, ce qui effectivement n'existe pas. Il faut rappeler, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup parlé de loi Sapin 2 ces derniers temps, l'inéligibilité n'était pas automatique, mais était possible. La loi Sapin 2 la rend automatique. Et c'est bien là que nous sommes aujourd'hui. On a parlé, Maxence Lambrecht, du fait que peut-être qu'au Rassemblement National, il pourrait y avoir des remous et que certains pourraient avoir envie d'entrer dans certaines failles si des failles s'ouvrent. Je me demandais ce qui pouvait se passer ailleurs, si ça ouvrait aussi... des perspectives en dehors du Rassemblement National en vue de 2027. Est-ce que ça ouvre une fenêtre, ça,
évidemment,
à votre avis?
Évidemment que la ligne de... Alors là, 2027 paraît encore plus loin et le brouillard s'est encore épaissi davantage aujourd'hui. Bruno Retailleau, par exemple, peut s'imaginer, à son âge, il a l'âge de Marine Le Pen, incarner une sorte de figure de droite sûre, solide, et parler à une partie de son électorat. Édouard Philippe se dit qu'il y a un truc à jouer parce que face à un Jordan Bardella trop jeune, il y a évidemment une carte à prendre. Et non, bien sûr, là, on se demande vraiment où on va, avec quelle ligne de départ nous démarrerons en septembre 26 la campagne présidentielle. Et bien sûr que tout ça remet en jeu beaucoup, parce que quand on se dit que Jordan Bardella peut être candidat à présidentielle, bah en fait, ça va permettre sans doute à beaucoup de se dire « Ah ben moi aussi, en fait, j'ai un peu plus de 29 ans et je suis aussi assez sympa et je parle bien sur les plateaux, donc je peux peut-être y aller ».
Bah écoutez, je vous en prie.
Non, pas moi.
On verra ce que fera Pierre-Édouard Sterrin aussi dans cette histoire avec le projet Périclès. Parce que
non, mais en tout cas, ça ouvre évidemment un champ plus large que ce matin.
Voilà, en tout cas, les champs sont ouverts. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie chaleureusement tous les trois de votre participation au téléphone sonne. Merci à tous, évidemment, pour vos nombreux appels.